conférence sur le regard de philosophie sur la paternité de Dieu par le Père Marie-Dominique Philippe, 12 juillet 2001 à Saint-Jean-d'Or.
Nous allons commencer à gravir la montagne. Il est toujours très important, au point de départ, de voir d'abord qu'il y a divers points de départ de la philosophie. De facto, hein, de fait, les points de départ des philosophes sont très variés. Je ne dis pas qu'ils sont tous bons. On regarde d'abord, sans juger, les différents points de départ. Parce que c'est quand même très important de rectifier dès le point de départ ce que doit être notre commencement. On a un très bon exemple de cela dans l'évangile de Saint Jean. C'est pas philosophe, mais le philosophe a le droit de lire l'évangile de Saint Jean en philosophe. Parce que c'est pas bête. Et on dit au commencement. Je regarde le point de départ de l'écriture, au commencement. Donc on voit très bien que. Regardez le point de départ, c'est au fond nécessaire quand on a un long chemin à faire. Nous sommes obligés d'aller très vite, mais on va tout de suite au sommet, hein, puisque cette réflexion que nous avons ensemble doit aller au sommet. Alors il est important de voir quel point de départ aboutit à ce sommet. On a une longue route à faire, point de départ, le sommet, Dieu, Créateur, Père. Voilà le sommet, on arrive là, sur le Père. Comment le philosophe peut-il parler du Père? Et c'est important, puisque la grâce présuppose la nature. Donc, quand on parle de Père, au point de vue de la foi chrétienne, la paternité, telle que je la comprends, au point de vue philosophique, est engagée. Alors, point de départ. Notre philosophie a son berceau dans la Grèce. On pourrait faire le parallèle avec l'Inde, ce serait intéressant. Olivier Lacombe, j'ai très bien connu et beaucoup aimé, a fait ça pour l'Inde. Et j'ai beaucoup parlé avec lui, parce que ça m'intéressait beaucoup. L'Asie a aussi son point de départ. Alors on ne peut pas tout regarder, mais la Grèce a eu quelque chose de historiquement que tout le monde reconnaît très étonnant. Elle est partie en flèche, mais le point de départ de la philosophie grecque est très intéressant. J'ai dû à Fribourg enseigner la philosophie grecque. Et j'étais très heureux d'avoir ce point de vue historique à regarder pour comprendre un peu. Alors on voit tout de suite que ce début a pris toute sa taille avec deux grands philosophes, Platon et Aristote. Mais avant ça, c'était déjà inscrit chez Parménide, chez Héraclite. Le point de départ de Platon, c'est l'inspiration. Le point de départ de Bergson, c'est l'inspiration. On a l'intuition. Le point de départ de Maritain, l'inspiration. L'intuition de l'être. Il y a toute une lignée de philosophes qui veulent partir de l'inspiration. Vous voyez, c'est très intéressant, ça. C'est très beau de partir de l'inspiration. C'est très grand. Mais on a tout de suite cette espèce d'inconvénient, c'est que l'inspiration est très personnelle. J'ai eu ce matin une inspiration. Vous ne l'avez pas eu, vous. Vous avez dormi ce matin. Puis maintenant, vous êtes éveillé, j'espère. Mais vous n'avez pas eu cette inspiration. Alors, je peux décrire cette inspiration, mais je ne peux pas vous la communiquer. L'intuition de l'être, est-ce que vous l'avez, l'intuition de l'être ? Maritain l'a eu grâce à Raïssa. Il l'a dit lui-même. C'était Raïssa, son épouse, qui était son inspiratrice. Et ça, il y a des choses semblables à ça. La femme est souvent plus douée dans l'inspiration que l'homme. L'homme, il aime bien les choses terre à terre, hein, bien raisonnées et résonantes. Et que la femme, elle vit d'inspiration affective, d'inspiration poétique, d'inspiration artistique. L'artiste vit d'inspiration. Et c'est sympathique. C'est beau, c'est grand, ça nous réveille. De vivre à côté d'artistes, peintres, poètes, musiciens, c'est quelque chose qui nous réveille. Ils ont l'inspiration, ils ont de la peine à nous les communiquer. Ils ne savent pas très bien comment. Mais si on est docile, on écoute. Et on essaie de marcher par derrière. La grande philosophie de Platon, elle dépend de l'inspiration, des formes idéales, des formes en soi. L'inspiration de l'être, c'est quelque chose comme ça. Pour Platon, tout se ramène à l'un. Pour Maritain, tout se ramène à l'être. Mais on a deux inspirations. Et puis, il y a l'autre courant. On part de l'expérience. Vous voyez, il y a toute une conception de l'homme hein, derrière. Hein. Et au point de départ, c'est pas dit. Mais en réalité, au terme, on s'aperçoit qu'il y a deux conceptions de l'homme. Deux conceptions de cette dualité que nous portons en nous. L'esprit, la matière. L'esprit, le corps. Alors, pour Platon et pour tous ceux qui vivent de l'inspiration, c'est l'esprit qui s'évade quand elle est prise par une inspiration et qui demeure dans cette inspiration et puis qui, réfléchissant sur cette inspiration, découvre de plus en plus la fécondité de cette inspiration. Mais tout découle de cette inspiration. On a alors une sorte de méthode dialectique qui avance tout le temps en fonction de cette inspiration. l'autre point de vue, c'est que l'âme, le côté spirituel qui est en nous, informe le corps. Et l'expérience, c'est déjà la vie de l'esprit à travers le corps, à travers les sens. Platon, au début de sa recherche philosophique, méprise l'expérience et les sensations. Puis progressivement, peut-être l'influence d'Aristote auprès de lui. Aristote était 20 ans disciple de Platon. Et les Grecs ont toujours été très attentifs aux jeunes. Il y a en France quelque chose comme ça qui vient de la Grèce. On est attentif à la montée. Le Saint-Père est attentif à la montée. Les jeunes, c'est la montée. Les vieillards, ils essaient de ne pas faire que ce soit la descente. Alors ils se mettent sur le haut plateau. C'est bien. Et ils essaient de monter encore. Mais la jeunesse, c'est nettement l'espoir, l'espérance. Le jeune Platon est pris par son intuition et par la force de son intuition. Et chacun des dialogues, chaque dialogue a son unité, son inspiration propre pour montrer ce qu'est l'âme. Tout est orienté vers ça. Aristote, au contraire, c'est l'expérience. L'expérience des sens externes. Pas l'expérience interne, non, une expérience très incarnée. Je touche, le toucher est le sens le plus réaliste. On le sait bien. Et quand on a parlé beaucoup des soucoupes volantes, je lisais ce qu'on disait sur là, et je cherchais toujours. L'expérience du toucher, elle n'existait pas. C'était le bruit, c'était l'imagination. Et le toucher, tant qu'on n'a pas touché quelque chose, on ne sait pas très bien si ça existe. Le toucher, l'expérience la plus radicale, la plus fondamentale, c'est le toucher. La vue, oui, mais facilement, on peut avoir des hallucinations. Quand on est trop longtemps au désert et qu'il y a une forte chaleur, on peut avoir des hallucinations. Alors à ce moment-là, on quitte l'expérience, on tombe dans l'intuition, dans la vision. Parce qu'au fond, la vision, la vue, l'intuition de l'être, ça dépend de la vue. Une vue intérieure, mais c'est la vue. On a la mémoire de chacun de nos sens. Il y a des personnes qui ont une mémoire très tactile. Ils sont très réalistes. Il y a des gens qui ont une mémoire très visuelle. Ils sont artistes, ils sont peintres. Il y a des gens qui ont une mémoire très musical, il a un sens de l'harmonie. C'est très curieux. Au fond, on voit l'importance des sens, de l'expérience externe et d'expérience interne qui vient de la mémoire, qui vient de l'imagination et qui est toujours liée avec ton sens externe. C'est très net qu'il y a des philosophies de l'inspiration, des philosophies de l'expérience. Entre deux, entre ces deux extrêmes, vous avez des philosophies à type mathématique. Parce que les mathématiques, c'est entre les deux. Et les mathématiques se sont développées énormément depuis les mathématiques des pythagoriciens et a toujours eu un lien entre les mathématiques et la philo. Chez Platon, les mathématiques sont l'intermédiaire nécessaire. Il y a l'expérience externe qu'on laisse tomber. Les mathématiques, ah, c'est déjà la pensée, c'est déjà la raison. Et puis au-dessus, l'intuition. Et les mathématiques se sont développées énormément et ont pris une importance capitale dans notre monde d'aujourd'hui. Et on voit tout un développement philosophique à base mathématique. Husserl, qui était matheux, c'est une méta-mathématique. C'est pas une métaphysique, c'est une méta-mathématique. Et vous avez tout le développement de la phénoménologie à partir de là, la mise entre parenthèses de l'être et le développement de la relation. Alors, on aurait comme trois commencements. En gros, il y a des modalités diverses, mais il y en a trois qui dominent. L'inspiration, l'expérience, le médiateur entre les deux, le point de vue de la connaissance mathématique. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir lequel on va choisir. Il faut être conscient. Le philosophe doit être conscient de ce qu'il fait. Il ne rejette pas l'inspiration. C'est très important. Mais le philosophe veut que toute inspiration soit critiquée, soit précisée grâce à l'expérience. L'inspiration nous donne des ailes. On va vite au but, très vite. Et on doit revenir pour voir si ça tient la route. Les mathématiques, ça c'est différent. Les mathématiques sont déjà à base d'un raisonnement. On les laisse de côté. Et l'expérience externe a l'immense avantage, c'est qu'elle nous met en contact avec le réel dans lequel je suis. L'inspiration ne sait jamais si c'est réel ou pas. C'est possible. C'est le possible. Tandis que l'expérience, c'est vraiment ce qui tient la route. C'est peut-être un petit peu plus lourd. C'est pas commode d'assumer toutes nos expériences. Surtout des expériences douloureuses. Les expériences douloureuses peuvent arriver à nous prendre affectivement de façon tellement forte qu'on reste dans ces expériences douloureuses. On reste fixé. Mais vous voyez, c'est plus l'expérience externe. Hein. Ça devient l'expérience interne. Et l'expérience interne, très souvent, se transforme en inspiration. Au fond, si nous regardons notre philosophie européenne, c'est à la mode aujourd'hui, si on regarde nos philosophies européennes, on voit très nettement que le point de départ de notre philosophie européenne, c'est la Grèce. Ça a pris un développement énorme avec le christianisme. parce que ça a dépassé la petite Europe. Et au bout d'un certain temps, on est passé de l'expérience « ceci est » à « je suis ». Je crois que c'est juste de dire que notre philosophie européenne a deux sources. Une première source grecque, aristotélicienne, une seconde source dans le néoplatonisme, qui s'est centralisée sur le « je suis ». En gros, je peux ramener tout à ces deux points de départ. Ceci existe. On montre. C'est comme cela qu'on dit que Jean-Baptiste est le plus grand prophète, parce qu'il a montré « voici l'agneau de Dieu ». Il l'a montré du doigt. C'est pour ça qu'on présente Jean-Baptiste toujours indiquant l'agneau de Dieu. Il est. Les prophètes annonçaient « il viendra ». On ne savait pas comment. C'était le possible. Jean-Baptiste dit « voilà, il est là ». Voici l'agneau de Dieu. Nous avons donc un point de départ sûr de la philosophie. Jugement d'existence. C'est capital, ça. C'est capital. Je me souviens, je fais des allusions ici très directes. C'était à la thèse de mon frère, le père Marie-Dominique Gouthière, sur Hegel, il y avait le jury que je voyais bien en face de moi. Et celui qui était dans le jury, il y avait une chose qui l'inquiétait. Vous revenez toujours sur le jugement d'existence, mais qu'est-ce que c'est que ce jugement d'existence ? Alors il revenait tellement dessus qu'à la fin de la... que la thèse soit passée, j'étais lui dire bonjour. Arrivé, oui, j'ai lu vos livres, mais qu'est-ce que c'est que ce jugement d'existence ? Ça l'inquiétait. Mais je disais très simple, c'est quand vous affirmez quelque chose et ceci existe, ceci est. Et puis il y a Descartes. Descartes, je suis. Mais en réalité, Descartes n'est pas le premier qui a dit ça. Au XIVe siècle, un théologien franciscain, Occam, a dit que tout commençait par « je pense ». Je pense. Et j'aime, parce qu'il était franciscain. Donc il fallait bien les deux. Je pense et j'aime. Et j'aime Socrate. Il ajoutait. Donc, c'est le premier qui a montré ce qui est premier dans la connaissance, c'est l'affirmation qu'on pense. Et quand on pense tout le temps à quelqu'un, à quelque chose. Quand je dis « je pense », alors quoi ? Et qu'on ne précise pas. Alors c'est soi. Je pense. Cogito. Vous voyez ? Le passage du « je pense » au « cogito, ergo sum ». Alors, « je pense », »,« je cogite »,« cogito », »,« ergo sum », donc l'être. Et c'est pour ça que Étienne Gilson n'hésite pas de dire qu'il y a deux commencements dans la philosophie européenne, très nets. Le jugement d'existence, ceci est, l'intelligence est ordonnée à la réalité. Et l'intelligence se laisse mesurer, déterminer par la réalité. Et puis l'autre, qui commence tout de suite par la pensée, je pense, je cogite, et on ne précise pas. Je cogite, c'est moi. Et c'est moi que je regarde, je cogite. Je deviens intelligent en cogitant, en pensant. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors je dis ensuite, évidemment, je suis. Si je cogite, il faut bien que j'existe. Alors à ce moment-là, c'est la pensée qui mesure l'être. C'est très simple. Deux relations différentes. L'intelligence ordonnée à la réalité et la réalité détermine l'intelligence. Le jugement d'existence est premier. Ou au contraire, la pensée détermine, se détermine elle-même. Elle se pense et elle va jusqu'à déterminer l'être. Alors on a deux types de philosophie. La philosophie réaliste, la philosophie subjective de la pensée. En gros, c'est très juste. Il y a des nuances, évidemment, mais au fond, c'est très juste de voir ces deux premiers qui vont-ils se rencontrer ou pas se rencontrer ? Lequel dois-je choisir ? Le point de vue réaliste ou au contraire le point de vue de moi ? On a toujours envie de commencer par soi, hein, parce que on croit toujours qu'on est plus intelligent que les autres. Alors, il vaut mieux commencer par soi. C'est plus séduisant. Et c'est vrai, c'est plus séduisant. Le cogito est séduisant. Je pense c'est séduisant. Tandis que l'autre, dire ceci est, c'est dès le point de départ, se soumettre à la réalité qui n'est pas moi. Je respecte l'autre. Tandis que, en commençant par « je pense », c'est moi que je regarde et non pas l'autre. C'est très significatif, ça. Alors, comment choisir ? Ah, il faut choisir. Je ne peux pas développer ça en parallèle. Alors, il y a quelque chose qui me semble très important à remarquer. Quand je dis « ceci est », j'affirme et j'appuie sur « est », le verbe « être ». Ceci. Ceci, ça peut être n'importe quoi. Cette table, elle existe. Vous existez. Le soleil existe, les étoiles existent, les hommes existent. Le ceci, c'est n'importe quoi. Et je mets en pleine lumière et. Tandis que quand je dis je suis, mon je absorbe l'être. Et je le vois en fonction de moi. L'être est relativé, relativisé, absorbé par le jeu, par moi. Donc, j'aurai beaucoup de peine de sortir de moi. Et je verrai toujours les autres en fonction de moi. Alors que si l'autre est affirmé dès le point de départ comme autre, je le respecte. Et en affirmant que l'autre existe, j'affirmerai que j'existe. Mais je serai en second. Je ne serai pas premier. C'est l'autre qui sera premier. Vous voyez, il y a là quelque chose de très important à saisir. Dans l'affirmation « ceci est », je m'ouvre au monde entier. Le monde entier m'intéresse. Quand je dis « ceci est », je m'enferme en moi. Et je regarde tout en fonction de moi. Je me souviens, ceci pour vous donner l'exemple, c'était à Fribourg, une conférence de Beuve Meury, directeur du journal Monde à ce moment-là. Beuve Meury était une personnalité. Et il avait intitulé sa conférence à Fribourg « Qu'est-ce que c'est que la vérité ?» Alors, vous comprenez que j'étais là, en première ligne, comme ça, juste en face de lui. Et il me voyait bien, puisque j'étais en tenue dominicaine. Alors, il a commencé par saluer Fribourg et les Dominicains qui étaient à Fribourg. Je lui ai dit « Qu'est-ce que c'est que la vérité ?» Pour un journaliste. C'était intéressant de voir. Qu'est-ce que c'est que la vérité pour un journaliste ? La vérité, quand on a une mission à accomplir, on se fait une idée de ce qu'on va voir. La vérité, c'est si la réalité conforme à moi, moi est en premier, l'idée que je me suis formée est en premier, alors que j'aurais dit la vérité, c'est si ma pensée est conforme à la réalité. Ce n'est pas ma pensée qui mesure la réalité. Vous voyez ? Et je crois que c'est très important, dès le point de départ, de saisir ça. C'est que la vérité, c'est affirmer quelque chose de réel. Je vais voir si ce que je pense est exact. Et conforme à la réalité. Si j'ai brodé, j'ai imaginé, je serai obligé de reconnaître que ce n'est pas ça la vérité. Deuxième chose, deuxième point. Donc c'est déjà ça, la vérité que je choisis comme recherche de ma philosophie, la vérité ne peut être ce qu'elle doit être que par l'affirmation « ceci est ». Quand j'affirme au contraire « je suis », ma vérité, c'est premièrement ce que je pense. C'est intéressant de savoir ce qu'un journaliste pense, mais c'est encore plus intéressant de savoir ce qu'est la réalité qu'on cherche. Ce qu'un journaliste pense, au bout d'un certain temps, on le sait d'avance, parce qu'on sait très bien sa pensée. Et donc, il voit tout en fonction de ça. Le second point, c'est que si je pars du « ceci est », dans le « ceci est », il y a le « moi ». Je suis. Je suis un « ceci ». Et je suis impliqué dans la recherche du ceci est. Tandis que si je pars de mon affirmation « je suis », je ne pourrai jamais rejoindre le ceci est. Et c'était la recherche incessante dans Lévinas, savoir ce qu'est l'autre. Parce qu'il commençait par ce que lui pensait. Et ce que lui pensait ne rejoignit jamais l'autre. Et incessamment, il cherchait ce que c'est que l'autre. Parce qu'il était emprisonné dans le bois. Si je suis emprisonné dans mon moi, je ne peux jamais connaître l'autre. L'autre m'échappe. L'autre me dépasse et je ne le connais plus. Ce que dit Kant, le noumène est inconnaissable. L'autre est inconnaissable. Ce que je connais, la seule chose que je connais, c'est mon moi. C'est très ennuyeux, ça. De s'enfermer en soi. Vous savez, le reproche qu'on fait couramment, tu vois, à quelqu'un qui nous parle, tout ce que je te dis, tu le penses en fonction de toi. Et donc, tu n'arrives pas à saisir ce que je te dis. Ce que je te dis tient la route par elle-même. Et c'est ça que je veux te communiquer. Tandis que tu penses tout en fonction de toi, si tu as commencé par le « je suis ». Vous voyez, c'est deux raisons que je vois dès le point de départ. Je comprends que le que dire « je suis », c'est plus agréable, c'est plus séduisant. Oui, c'est vrai, mais je ne l'abandonne pas. Je regarde d'abord ceci est, pour ne pas m'enfermer en moi-même, et pour avoir l'ouverture complète vis-à-vis de l'autre. Et je viendrai ensuite petit à petit, à l'affirmation « je suis ». Mon affirmation « je suis » peut se comprendre alors de deux manières. « Je suis », c'est un « ceci » privilégié. Quand je dis « ceci est » en regardant un autre, et quand je dis « je suis », je vois que moi, je suis un ceci privilégié parce que je peux me connaître de l'intérieur, tandis qu'un autre, je ne le connais jamais totalement de l'intérieur. Il se manifeste à moi. C'est l'extériorité d'abord. C'est la manifestation en premier lieu. Et je risque de rester dans cette manifestation. Parce que cette manifestation, elle est très visible, elle est très manifeste. Tandis que l'intériorité de l'autre, c'est très difficile à la saisir. Quand je commence à l'aimer, je commence à la saisir. Mais si je ne l'aime pas, je ne saisis pas du tout. Et je me trompe quelquefois complètement vis-à-vis de lui. Quand je l'aime, je commence à le saisir de l'intérieur. Voyez cette chose curieuse et intéressante du reste. Dans le « je suis », c'est l'amour qui l'emporte sur la connaissance. C'est parce que je m'aime. Et je m'installe en moi. Et les autres ne sont intéressants que dans la mesure où ils s'intéressent à moi. Quand ils ne s'intéressent pas à moi, ils ne sont pas intéressants du tout. Au fond, tout est commandé par un amour secret de soi, où je ramène la connaissance des autres à ma connaissance. Et c'est vrai, je vois là la différence entre la connaissance et l'amour. Et c'est très important, philosophiquement, de voir tout de suite la différence entre la connaissance, la connaissance de l'autre, la connaissance objective de l'autre et l'amour. L'amour me permet de m'installer chez l'autre. L'amour est extatique. On s'installe vers l'autre. On se porte sur l'autre. La connaissance est le retour sur nous-mêmes. La connaissance, c'est moi qui m'enrichis, puisque je connais l'autre, je le prends chez moi. Quand j'aime, je vais vers l'autre. Ces deux mouvements de connaissance et d'amour sont très importants au point de vue philosophique. Je prends donc comme point de départ de ma philosophie réaliste le jugement d'existence « ceci est ». Et tout de suite, je comprends qu'il y a pour compléter « ceci est » le « je suis ». Parce que alors, j'ai une connaissance intérieure de l'être, tandis que de l'autre, j'ai une connaissance purement objective. Et je vois que ces deux aspects se complètent. Je dois connaître objectivement l'autre, dans la plus grande objectivité possible, et je me connais moi-même dans la plus grande subjectivité possible. Je n'oppose pas les deux. Je comprends qu'ils sont différents. Il y en a un qui est premier, l'autre qui est second. Le premier, c'est l'objectif. Le second, c'est le subjectif. Mais le subjectif rejoint le premier et regarde le premier, l'objectivité dans toute sa force. Une fois que j'ai bien situé mon point de départ, je vais progresser. Et je progresse d'abord parce qu'il est plus manifeste pour moi le travail. L'homme est un être qui travaille. Et le travail n'est parfaitement travail que chez l'artiste. L'artiste travaille, et il travaille beaucoup. Le travail est un plaisir pour lui, parce qu'il est artiste. Quand on travaille en usine, c'est pas très artistique. Mais quand on travaille pour faire quelque chose, ah, c'est différent. La grande expérience du travail. Je crois que toute philosophie réaliste doit commencer par une philosophie du travail. Toute philosophie idéaliste ne voit pas du tout le début d'une philosophie par le travail. L'homme se manifeste par la qualité de son travail. Et on a confiance en lui si son travail est bien fait. L'homme et la femme. Quelqu'un qui ne sait pas travailler, travail manuel, travail artistique, travail même dans les manuscrits, c'est un autre travail, dans les documents, il recherche. Second aspect, c'est l'aspect de la responsabilité. Je suis responsable de mes actes. Et j'ai conscience d'être responsable de mes actes. Et troisième aspect, je peux coopérer avec les autres. J'ai trois points de départ, là, très importants. Et je crois que toute philosophie réaliste doit commencer par ces trois points de départ. travail, la responsabilité qui repose sur l'amour. Je suis responsable de mes actes. Et la coopération. Quand je coopère avec quelqu'un, il se forme une petite communauté. Toute communauté humaine repose sur la coopération. Et quand la coopération devient impossible, il n'y a plus de communauté. Il n'y a plus des individus. Philosophie de l'art, du travail, philosophie éthique, de la responsabilité, philosophie politique, la famille, la première coopération visible, la plus visible, c'est entre l'époux et l'épouse, la famille. Cette première partie de la philosophie, philosophie humaine, très importante, Aristote dira philosophie pratique, concrète. C'est vrai, rien de plus singulier que le travail. Rien de plus singulier que la personne qui est responsable. Et il n'y a rien de plus commun que la coopération. Et tout ça se termine, se noue autour de l'amour d'amitié. La plus grande responsabilité que j'ai, c'est d'avoir un ami. C'est la plus grande responsabilité, parce que je suis responsable d'une personne. Dans l'amour d'amitié, c'est bien ça. On se noue dans cette responsabilité commune, pouvoir travailler ensemble, pouvoir œuvrer ensemble. C'est capital. Et c'est capital au point de vue philosophique, parce que c'est la première grande expérience que j'ai de la finalité. Point de départ et finalité, ah, point de départ, je commence par ça, ceci est. Et la finalité, ce qu'est le terme, et qui est la finalité, ce qui m'attire. Ce qui m'attire, c'est l'ami. La chose la plus grande sur Terre, hein, l'expérience humaine que je peux avoir, c'est cette responsabilité de l'ami. Dès qu'il y a une amitié véritable, il y a une force très grande. Je me décuple grâce à mon ami. Je m'étends, il y a des tas de choses que je fais grâce à lui et que je ne pourrais pas faire moi-même. Et ensuite, alors, une recherche philosophique de la vérité. Je dépasse l'homme pour découvrir ce qu'il y a de plus profond dans l'homme. Ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, c'est son devenir. Ce qu'il y a de plus profond, non, ce qu'il y a de plus tangible, c'est l'homme qui se modifie le plus et la recherche du devenir. La recherche du vivant. Celui qui se meut et la recherche de l'être. Point de départ, ceci est. Je dois donc travailler à découvrir ce qu'est l'être. Ce qu'est le devenir, tout entier tourné vers l'être. Ce qui se meut, tout entier tourné vers l'être. découvrir ce que doit être l'être. Et c'est alors où je me pose la question, en face de mon ami, qui est un être semblable à moi, mais en même temps, il me finalise. Il est semblable à moi et il me finalise. C'est une chose très curieuse dans l'amitié. Il est un avec moi et il me finalise. Je me pose la question, est-ce que mon ami est la réalité la plus parfaite que je puisse aimer ? Existe-t-il un être autre, antérieur à mon ami ? Je me pose la question, alors, de l'existence d'un être premier. Existe-t-il vraiment ce que les religions appellent Dieu ? Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Vous voyez, la grande question philosophique qui se pose tout de suite dès le jugement d'existence, ceci est, est-ce que mon ami qui existe, qui est tout à moi, est-ce qu'il est la réalité suprême ? Est-ce que je suis la réalité suprême ? Est-ce que les hommes qui sont autour de moi sont la réalité suprême ? Ou y a-t-il quelque chose d'autre ? C'est la grande question philosophique. Et voyez, la réponse est tout autre pour une philosophie qui commence par « je suis » et une philosophie qui commence par « ceci est ». Une philosophie qui commence par le « je suis » ne sort pas du « je suis » ou sort du « je suis » relativement à lui, « ergo sum ». Je suis cogito ergo sum, donc la réalité relative au cogito, et la réalité suprême est relative au cogito. Si je saisis un Dieu relatif à moi, ce n'est plus un Dieu. Évidemment, il n'est pas premier, absolument. Vous voyez, ce mouvement de « ceci est » jusqu'à cette interrogation, existe-t-il un être premier ? Et ça, c'est capital. Ma vie humaine se change complètement s'il existe un être premier, Dieu, ou si il n'existe pas un être premier. S'il n'existe pas d'être premier, je suis à moi-même mon Dieu. C'est-à-dire, il n'y a rien de plus parfait que moi. J'ai cette tentation terrible de dire ça, hein, parce que je connais beaucoup d'autres personnes, mais elles ne sont pas aussi intelligentes, elles n'aiment pas autant, elles ne sont pas capables de faire ceci. Il y a toujours dans « je suis » quelque chose d'unique. Et ce quelque chose d'unique devient absolu. Et c'est vrai que si Dieu n'existe pas, je suis à moi-même l'absolu. Si Dieu existe, si l'être premier existe, ah, c'est différent. Parce que je suis dépendant de lui. Donc, je puis essayer de savoir qui il est. Et j'essaie de contempler cet être premier, Dieu. Alors nous allons, cet après-midi, voir comment l'intelligence humaine peut découvrir Dieu comme Père. Je voulais d'abord que vous puissiez comprendre cette grande question, et il faut se la poser. Dieu, existe-t-il un être premier ? Pouvons-nous affirmer l'existence d'un être premier ? Cet être premier, les religions l'appellent Dieu. Le mot Dieu n'est pas philosophique, hein ? Ce n'est pas le philosophe qui a inventé Dieu, c'est les traditions religieuses qui ont inventé le mot Dieu. Et le philosophe s'est posé la question et doit se poser la question. Autrement, il n'est pas vraiment philosophe. Ce Dieu que les traditions religieuses me présentent, est-il une réalité ? Ou est-ce que c'est un mirage ? Est-ce que c'est un symbole ? Est-ce que c'est un mythe ? Je dois me poser la question. Et c'est la grande question philosophique. Il y a l'autre question philosophique très importante. Est-ce que l'âme, qui est aussi une expression religieuse, est-ce que l'âme existe ? Ces deux questions se ramenant à une seule, Dieu existe-t-il ? Est-ce qu'un être suprême existe-t-il ? Ou dois-je considérer ce que je vois comme étant l'absolu ?